Et on a sans doute déjà vu un, dit Beauvoir tandis que l'homme qui l'appelait Lucas posait le caisson de projection sur la table après y avoir fait de la place. À l'école, dit Bobby.
Tu vas à l'école, mon pote ? Lança deux par jour. Pourquoi tu n'y es pas resté, putain ?
Il allumait cigarette sur cigarette depuis qu'il était revenu avec Lucas et paraissait en plus mauvais état qu'auparavant.
La ferme, deux par jour, dit Beauvoir.
Ça ne te ferait pas de mal à toi un peu d'éducation. Ils en utilisaient un pour nous montrer comment se repérer dans la matrice, comme accéder à des trucs de la bibliothèque imprimée, ce genre de choses.
Bon,
alors, dit Lucas en se redressant et en essuyant de la poussière inexistante sur ses grosses paumes roses, tu l'as déjà utilisé pour ça, pour accéder à des livres imprimés. Il avait retiré sa veste de costume noir immaculée pour dévoiler une chemise blanche et propre fendue par une paire de minces bretelles bordeaux et il avait desserré le nœud de sa cravate sombre.
« Je ne lis pas très bien, » dit Bobby.
« Enfin, je sais lire, mais ça me demande des efforts. Mais ouais, j'ai maté des vieux livres et ce genre de choses dans la matrice. »
« J'en étais sûr, » dit Lucas en branchant une sorte de petit clavier sur l'interface qui formait la base du caisson. « Compte zéro. Interruption du compte à zéro. »
De l'ancien jargon de programmeur. Il passa le clavier à Beauvoir qui commença à entrer des commandes. Des formes géométriques complexes s'emboîtèrent dans le caisson, alignées sur le plan presque invisible d'une grille en trois dimensions. Bobby s'aperçut que Beauvoir faisait apparaître les coordonnées de Baritone dans le cyberespace.
« On va dire que tu es sept pyramides bleues, Bobby.
Te voilà. » Une pyramide bleue se mit à clignoter doucement en plein centre du caisson.
« Maintenant, on va te montrer ce que les cow-boys de deux par jour ont vu, ceux qui te surveillaient. À partir de là, tu mates un enregistrement. »
Un trait ininterrompu de lumière bleue sortit de la pyramide en suivant une ligne de la grille. Bobby regardait, se revoyant tout seul dans le salon de sa mère. L'Ono Sendai sur les genoux, les rideaux tirés, ses doigts virevoltant sur la bécane. « Le brise-glace arrive, » dit Beauvoir. La ligne de points bleus atteignit la cloison du caisson. Beauvoir tapa sur le clavier et les coordonnées changèrent. Une nouvelle géométrie remplaça la première disposition. Bobby reconnut l'amas de rectangles orange au milieu de la grille.
« C'est ça !» dit-il.
Le trait bleu avança depuis le bord de la projection en direction de la base orange. De légères formes d'un orange fantomatique scintillèrent autour des rectangles, se modifiant et clignotant à mesure que la ligne s'approchait.
« On voit bien que quelque chose ne va pas, là !» dit Lucas. « C'est leur glace !»
Et elle t'avait déjà repéré. Elle t'avait déjà flairé avant que tu ne l'atteignes. Lorsque la série de points bleus toucha la forme orange changeante, elle se retrouva entourée par un tube orange translucide d'un diamètre légèrement plus grand. Le tube commença à s'allonger, remontant le long du trait jusqu'à atteindre la cloison du caisson.
« Pendant ce temps, » dit Beauvoir, « chez toi à Baritown,
il tapa de nouveau sur le clavier » et la pyramide bleue de Bobby se retrouva au centre. Bobby regarda le tube orange émerger des limites de la projection suivant toujours la ligne bleue et approchant sans à-coup la pyramide. À ce stade, t'étais aux portes de la mort, cow-boy. Le tube atteignit la pyramide, des formes triangulaires oranges se jetèrent dessus et l'entourèrent. Beauvoir figea la projection.
« Là !» dit Lucas.
Quand les types engagés par deux par jour, qui sont quand même des hackers coriaces et expérimentés, lorsqu'ils ont vu ce que tu vas voir, mon pote, ils ont compris que leur interface était bonne pour la casse. Comme ce sont des pros, ils en avaient une de rechange. Lorsqu'ils l'ont connectée, ils ont vu la même chose. C'est là qu'ils ont décidé de téléphoner à leur employeur, Monsieur Depardjour, qui, comme ce bordel en témoigne, s'apprêtait à faire la fête.
« Je t'ai expliqué !» lança Depardjour d'une voix hystérique. « J'avais des clients qui avaient besoin de se détendre un peu. J'ai payé ces gars pour surveiller. » Ils s'en chargeaient et ils m'ont contacté. Qu'est-ce que tu veux, en fait ?
Ce qui nous appartient, dit doucement Beauvoir. Regarde ça, de très près.
Cet enfoiré est ce qu'on appelle un phénomène anormal ?
Sans déconner. Il tapa de nouveau sur le clavier pour relancer l'enregistrement. Des fleurs liquides de blanc laiteux s'épanouirent depuis le sol du caisson. Bobby tendit le cou et vit qu'elle paraissait composée de milliers de minuscules sphères ou bulles.
et qu'elle s'alignait parfaitement avec la grille cubique pour se mélanger et former une structure asymétrique à la partie supérieure plus grande, une sorte de champignon rectiligne. Les surfaces, les facettes, étaient d'un blanc immaculé. L'image dans le caisson n'était pas plus longue que la main ouverte de Bobby, mais pour quiconque branché sur une interface, elle aurait paru énorme. Une paire de cornes s'en déploya. Elles s'agrandirent et s'incurvèrent pour devenir des pinces qui tentaient d'attraper la pyramide. Il vit leur pointe plonger sans résistance à travers les formes oranges clignotantes de la glace ennemie. Elle a dit « Que fais-tu ? » s'entendit-il expliquer. Puis elle m'a demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi à moi ? Pourquoi il me tuait ? « Ah ! » dit Beauvoir. « On avance, là. » Il ignorait où ils allaient, mais il était content d'avoir quitté ce fauteuil. Beauvoir baissa la tête pour éviter une lampe de croissance qui pendait de deux longueurs jumelles de cordon spiralé. Bobby le suivit et manqua de glisser sur une flaque d'eau à la surface verte. L'atmosphère semblait plus épaisse, hors de la clairière où se trouvait le canapé de deux par jour. Une odeur de serre, humidité et plantes embaumait l'air. « En fait, » dit Beauvoir, « deux par jour a envoyé des amis jusqu'à Covina Concourse Courts, mais tu n'y étais plus. » Et ton interface avait disparu avec toi. Bon, dit Bobby, c'est pas vraiment sa faute, ça.
Ouais, quoi. Si je n'étais pas parti chez Léon, je cherchais justement deux par jour et je voulais monter ici, il m'aurait trouvé, pas vrai?
Beauvoir s'arrêta pour admirer une tige feuillue de chanvre en floraison, puis tendit un mince index brun pour caresser doucement les fleurs pâles et sans couleur.
Exact,
dit-il. Mais on parle de business, là. Il aurait dû envoyer quelqu'un surveiller ton appart pendant la durée de l'assaut, pour s'assurer que ni toi ni le logiciel ne fileraient. Il a quand même envoyé Réa et Jackie chez Léon, parce que je les y ai vus. Bobby passa une main sous le col de son pyjama noir et gratta la blessure cicatrisée qui barrait son torse et son estomac. Puis il se rappela l'espèce de mille pattes dont Paille s'était servi pour suturer, et il retira vivement sa main. Cela le démangeait d'un bout à l'autre, mais il ne voulait pas y toucher. Non, Jackie et Réa sont avec nous. Jackie est une mambo, une prêtresse, la monture de Dambala. Beauvoir continua à marcher en suivant ce que Bobby supposa être une piste ou un sentier dans le fouillis de la forêt hydroponique, mais qui ne semblait pourtant pas s'étendre dans une direction particulière. Certains des plus gros arbustes sortaient de sacs poubelles bulbeux en plastique vert remplis d'humus sombre. Beaucoup de ces contenants avaient éclaté et des racines pâles cherchaient des nutriments frais dans les ombres entre les lampes de croissance où le temps et la chute progressive des feuilles concouraient à produire un fin compost. Bobby portait des tongs en nylon noir que Jackie lui avait dégotés, mais il avait déjà de la terre humide entre les orteils. « Une monture ? » demanda-t-il à Beauvoir en évitant une plante piquante qui lui fit penser à un palmier dont l'intérieur se serait retrouvé à l'extérieur. « Dambala la chevauche, Dambala Wedo, le serpent. Parfois, elle est la monture d'Aïda Wedo, sa femme. » Bobby décida de ne pas chercher à en savoir plus. Il tenta de changer de sujet. « Comment ça se fait que deux par jour à un appart aussi immense ? Ça sert à quoi tous ces arbres et ces trucs ?» Il savait que Jackie et Réa lui avaient fait passer une porte dans le fauteuil de Sainte Mary, mais il n'avait pas vu de cloison depuis. Il savait aussi que l'archéologie couvrait beaucoup d'hectares et qu'il était donc possible que l'endroit soit immense. Mais il trouvait improbable qu'un fourgue, même doué, puisse se payer autant d'espace. Personne ne pouvait s'offrir autant de place. Et qui voudrait vivre dans une forêt hydroponique qui prenait l'eau ? L'effet du dernier patch s'estompait et il commençait à avoir mal à ressentir des brûlures au dos et à la poitrine.
« Des ficus ? Des mapous ? » Tout cet étage de la cité est un lieu saint. »
Beauvoir tapota sur l'épaule de Bobby et lui montra des fils tordus et bicolores qui pendaient de branches proches.
« Les arbres sont consacrés à divers loa. Celui-ci est pour Ougou Ferreil, le dieu de la guerre. Il y a beaucoup d'autres choses qui poussent ici. Des herbes dont les docteurs feuilles ont besoin et d'autres simplement pour s'amuser. Mais ce n'est pas chez deux par jour, c'est un endroit partagé.
Tu veux dire que toute la cité est dans ce délire ? Les trucs vaudous et tout ça ?
C'était pire que dans les cauchemars les plus sombres de Marsha.
« Non, mon pote, » dit Beauvoir avant d'éclater de rire. « Il y a une mosquée tout en haut et quelques milliers de baptistes fanatiques éparpillés un peu partout, une église de la science, tous les trucs habituels. » Mais bon, il sourit. « C'est nous qui avons la tradition la plus efficace. » Le départ de tout ça, de cet étage, ça remonte à un bail. Ceux qui ont conçu ces immeubles, il y a peut-être 80 ou 100 ans, ils voulaient les rendre les plus autosuffisants possibles. Qu'on puisse y faire pousser à manger, qu'ils se chauffent tout seuls, qu'ils produisent de l'énergie et tout le bordel. Sous celle-ci, si on creuse assez profond, on trouve de l'eau géothermale. Il fait super chaud là-dessous, mais pas assez pour alimenter un moteur. Alors ça n'allait pas leur filer de l'énergie. Pour ça, ils ont installé sur le toit une centaine d'éoliennes Darius, ce qu'ils appellent des fouets à pâtisserie. Ils se sont créés un parc éolien, tu vois. Aujourd'hui, la plupart de leur électricité provient de l'autorité nucléaire, comme tout le monde. Mais cette eau géothermale, ils la pompent jusqu'à un échangeur de chaleur. On ne peut pas la boire, parce qu'elle est trop salée. Donc, dans l'échangeur, elle chauffe simplement l'eau du robinet standard du New Jersey, que beaucoup de gens considèrent impropre à la consommation, de toute façon. Ils approchèrent enfin d'une sorte de mur. Bobby regarda en arrière. De petites flaques sur le sol de béton boueux reflétaient les branches des arbres nains, les racines pâles, dénudées, descendant dans des cuves artisanales de fluide hydroponique. Puis, ils la pompent dans des aquariums à crevettes où ils en enlèvent des paquets. Elles grossissent hyper vite dans l'eau chaude. Puis, ils la pompent dans des tuyaux à travers le béton jusqu'ici, pour qu'il y fasse chaud. Cet étage était réservé à ça, à faire pousser des amarantes ou des laitues hydroponiques, ce genre de choses. Puis, il l'envoie dans les aquariums des poissons-chats et les algues bouffent la merde des crevettes, les poissons-chats bouffent les algues et le cycle recommence. Enfin, ça, c'était l'idée. Il n'avait pas prévu que quelqu'un monterait sur le toit et virerait les éoliennes Darius pour y foutre une mosquée. Et il y a plein d'autres changements qu'il n'avait pas imaginés non plus. Alors, on s'est retrouvé avec cet endroit. Mais on peut encore manger de super bonnes crevettes dans la cité. Et des poissons-chats aussi. Ils étaient arrivés contre le mur de verre parsemé de grosses gouttes de condensation. Quelques centimètres derrière, se trouvait une autre cloison qui semblait faite de tôle rouillée. Beauvoir sortit une clé d'une poche de son peignoir luisant et la glissa dans un trou sur une poutre en alliage séparant deux plaques de verre. Quelque part, non loin de là, un moteur démarra. Les volets métalliques se levèrent avec des à-coups pour dévoiler un panorama que Bobby avait souvent imaginé. Il devait être près du sommet, haut dans la cité, parce qu'il aurait pu cacher le grand parvis avec deux mains. Les appartements de Barryton ressemblaient à un champignon gris clair, s'étendant jusqu'à l'horizon. Il faisait presque nuit, et il discernait une lueur rose par-delà la dernière rangée de bâtiments. C'est l'étendue là-bas. Pas vrai? Le rose. En effet, mais plus on s'approche, plus c'est moche. Tu aimerais y aller, Bobby? Compte zéro est prêt pour l'étendue, pour la conurbe. Mais carrément, dit Bobby, les mains contre le verre humide. T'imagines même pas. Le patch ne faisait plus du tout effet et il avait un mal de chien au dos et à la poitrine.